magazine de l'environnement.
Si vous nous rejoignez, nous parlons de l'état d'esprit de Jougade. Aujourd'hui, dans C'est pas du vent, avec Navier Adjou, le théoricien du concept, et Thomas Landrin, qui l'incarne, entre autres, en France, avec la Paillasse, son laboratoire communautaire en plein cœur de Paris. Alors, nous l'avons défini, cet état d'esprit, dans la première partie. Pour les auditeurs qui nous rejoignent, pour résumer, c'est faire mieux avec moins. Donc, c'est complètement en phase, Navier Adjou, avec les contraintes environnementales.
Absolument, parce qu'effectivement, c'est assez intéressant quand on parle de Jougade. Les gens disent, c'est faire plus avec moins. Et je les corrige en disant, non, c'est faire mieux avec moins, pour mettre l'accent.
Vous me corrigez donc.
Voilà, exactement. C'est aussi mettre l'accent sur le fait qu'on peut faire plus avec moins, avec un esprit très capitaliste. Hein, donc, mais simplement faire mieux avec moins consiste aussi à s'assurer que on amène la valeur sociale et économique, tout en réduisant l'utilisation de ressources naturelles. Donc, effectivement, il y a un angle de durabilité qui est très très fort autour de ce concept-là.
Et qui s'impose un peu pour les innovateurs finalement.
Absolument. Je pense que, par exemple, un exemple classique que j'aime bien mentionner, c'est au Pérou, où ils ont inventé un panneau publicitaire qui convertit l'humidité de l'air en eau potable. Donc l'idée aussi, c'est, oui, il y a une rareté de ressources naturelles, mais il y a aussi l'abondance. Et c'est ça qui me fascine dans les pays émergents, c'est qu'ils sont capables d'utiliser, par exemple, le soleil pour générer l'énergie solaire, ou l'humidité de l'air, dans le cas de Pérou, pour générer de l'eau.
Et des exemples, il y en a plein sur le continent africain, d'où l'idée d'aller les repérer. C'est l'objectif de Jougade Africain, un voyage d'un an, 20 000 km dans une vingtaine de pays, que vous avez débuté en juin dernier. Anne Barbery, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes actuellement à Diapaga, c'est dans le sud-est du Burkina Faso. Alors comment ça va depuis le mois de juin?
Écoutez, ça va bien. Depuis le mois de juin, le projet a déjà bien avancé. On a déjà visité 5 pays en Afrique de l'Ouest, vu que c'est là qu'on a commencé. Et on est donc là maintenant au Burkina Faso, à Diapaga. Et la prochaine étape, ça va être maintenant le Sénégal.
Alors, vous avez reçu juste avant votre départ, parce que nous allons suivre votre aventure dans C'est pas du vent, vous avez rencontré de nombreux innovateurs, j'imagine.
Oui, c'est ça. On a déjà rencontré une vingtaine de projets. Dans les 5 pays qu'on a rencontrés, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et des innovations qui sont dans des domaines variés, c'est-à-dire que autant des innovations en termes d'objets, des frigos, des maisons, des toitures, etc. Dans le service aussi, avec des déclarations administratives facilitées, du conseil, de l'accompagnement, mais aussi une innovation plus subtile dans la gouvernance et dans des manières différentes en fait trouver des investissements, des financements, etc.
Alors on a envie d'en savoir plus, vous pouvez nous donner quelques exemples concrets?
Oui, bien sûr. Là dernièrement, j'étais avec l'association Voûte Nubienne par exemple, que j'ai rencontré au Bénin et au Burkina Faso. Donc cette association travaille sur l'habitat rural adapté au contexte sahélien. Le principe et disons l'innovation dans ce domaine-là, c'est de n'utiliser que de la terre, donc un matériau local disponible à foison partout dans la campagne ici et puis même en ville, et de ne pas utiliser ni bois ni tôle. La tôle, pourtant, on sait bien qu'elle est très utilisée ici. Et c'est une technique qui est inspirée de maisons ancestrales égyptiennes. Donc c'est des maisons qui sont bien mieux isolées, avec des murs qui sont bien plus gros, qui durent bien plus longtemps. Il fait en général 10% plus frais à l'intérieur de ces maisons quand il fait chaud dehors, et il fait aussi plus chaud quand on est en période d'hivernage. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le prix est bien plus accessible avec des maisons qui sont, pour des maisons de 24 mètres carrés, entre 100 000 et 150 000 francs CFA, soit l'équivalent de 150, 200 et quelques euros.
Et le principe de la voûte nubienne, c'est qu'ils forment des maçons, ils ne gardent pas leur savoir-faire pour eux, et ils sensibilisent les habitants pour créer justement un marché indépendant et durable.
C'est ça, disons que c'est un peu le double effet qui coule de la voûte nubienne, qui est une innovation à la fois sur la technique, c'est-à-dire que la technique de la maison, mais aussi sur la gouvernance et l'organisation. Ils veulent créer en fait un marché local en sensibilisant les habitants, mais aussi créer une offre localement, qu'ils soient ensuite indépendants et qu'ils puissent ensuite fonctionner sans financement extérieur, c'est-à-dire qu'ils forment les maçons locaux à cette technique qui du coup l'intègre à leur offre et peuvent ensuite, une fois que la voûte nubienne, l'association n'est plus là pour les former, peuvent continuer quand même à diffuser ce mode d'habitat.
Voilà, et aujourd'hui, la voûte nubienne est présente au Mali, au Bénin, au Sénégal, au Ghana et au Burkina Faso, où vous avez rencontré, hein, le Burkina Faso, ceux qui ont décidé de se lancer dans la commercialisation du canari frigo. Alors, les canaris en Afrique, tout le monde connaît, hein, sont les grandes jarres qui permettent de conserver l'eau. Mais dans les années 90, Mohamed Bahaba, qui est un enseignant nigérian, a eu l'idée de les utiliser pour en faire un frigo. Faisal Ouedraogo, que vous avez donc rencontré, Anne, s'est lancé dans leur fabrication. Il nous explique comment ça marche.
Le canari frigo est une technologie adaptée à notre région du nord, qui est totalement le Sahel, qui consiste à conserver des légumes, des fruits et des médicaments. C'est fait par une association de potières qui est à Boussouma, un village à Yorona. Et pour la fabrication, on a besoin de deux canaris, un grand et un petit. On met le petit dans le grand et on isole l'espace entre les deux avec du sable. Du sable tamisé. Du coup, quand on arrose, l'eau, elle doit forcément s'évaporer. Alors l'eau, en s'évaporant, elle prend la chaleur du petit canari. Du coup, on a une température maximum de 16 degrés. En tout cas, il y a très souvent une distance de 20 degrés entre dehors et puis dans le canari frigo. Donc, ça peut conserver les tomates pendant une semaine, deux semaines, ils sont toujours en forme. Le canari, déjà, comme c'est de la terre cuite, quand tu mets de l'eau, ça se refroidit. Mais avec le sable et les deux canaris, ça fait encore plus de rafraîchissement. Donc on peut l'utiliser aussi pour l'eau. Comme c'est du nouveau, on avait vraiment besoin d'être sûr du produit avant de commercialiser ça. Alors depuis 2009 jusqu'à 2012, on n'a pas vendu de canaris. C'est EV, qui est une structure allemande, qui supportait le coût. En 2009, on a installé au moins chez 15 personnes. Et en 2010, on est allé avec une liste de questions, se renseigner quelles sont les difficultés que les gens ont eues avec, quelles sont les rentabilités. Alors on a constaté que la majeure partie des gens avaient un problème de déplacement. Parce que c'est conseillé de le mettre dans un lieu aéré pour que l'air fouette. Voilà. Donc beaucoup disent que quand il y a la saison, les pluies, ils ont du mal à déplacer. Voilà, c'est pour ça qu'en 2010, on a eu l'idée de faire celui-là.
Donc un canari qui est posé sur une brouette.
Une brouette, voilà, pour permettre le déplacement.
Et du coup, depuis 2012, maintenant, il est vendu maintenant le canari ou il est toujours en phase d'expérimentation?
Non, le canari est vendu maintenant. Le prix aussi, on a essayé ensemble. On a d'abord fait des questions aussi aux gens. Qu'est-ce qu'ils pensent? Quel prix le canari peut avoir, et puis ça ne va pas trop être cher pour eux, et on s'est retrouvé à un prix de 9000 francs.
Un peu moins de 15 euros.
Avec l'installation, y compris. Voilà.
Et du coup, vous avez vendu combien de frigo canari depuis le début?
Depuis le début, je pense que jusque-là, on a une quarantaine. Les gens sont contents parce que c'est une question de compréhension. Il y a des femmes qui sont à 2 km du marché, 3 km du marché. Chaque jour, elles sont obligées de mettre 500 francs CFA de carburant pour aller au marché. Alors avec le canari frigo, tu pars au marché une seule fois pour la semaine. Alors dans la semaine déjà, ça fait beaucoup d'économies. Tu pollues moins l'environnement aussi. Voilà. Et tu gagnes en temps. Et franchement, ça les motive.
Mais nous aussi, ça nous motive. Voilà l'une de vos rencontres, Anne. Quelles sont les prochaines prévues?
Les prochaines, là, je vais rencontrer donc encore quelques-uns au Burkina Faso. J'ai un rendez-vous avec Teco Carré, qui est mené par Calvin, qui récupère les sachets plastiques, les sachets noirs qu'on retrouve partout ici pour en faire des toitures de remplacement pour la tôle. Donc des toitures qui sont du coup plus écologiques à partir des matériaux locaux qu'on récupère et qui ensuite permettent une isolation thermique bien meilleure que la tôle.
Eh bien écoutez, on suivra ça attentivement. On se rappelle dans quelques temps pour faire un point avec vous sur l'avancée de votre voyage. Et on peut vous suivre sur le site internet que vous alimentez, djougadafrica.fr. À bientôt Anne.
À bientôt, merci.
Thomas Landrin, j'imagine que ça vous intéresserait vous aussi de savoir s'il y a des laboratoires communautaires, par exemple, sur le continent africain.
Absolument. Et d'ailleurs, c'est un mouvement qui commence à apparaître en Afrique. On a les Fab Labs.
qui sont en soi presque des laboratoires communautaires, qui sont plus dédiés au travail de la matière, de l'électronique. Et on a comme ça, par exemple, un Fab Lab qui marche très très bien au Togo, à Lomé.
Ah ben, on en parlait hier dans C'est pas du vent avec Jérémy Rifkin, justement.
Voilà, le Beau Lab, j'imagine.
Mmh, absolument.
Et donc, c'est aujourd'hui, en fait, qu'on regarde les impacts possibles d'un laboratoire ouvert comme celui de la Payasse. On s'intéresse aussi, évidemment, à l'agriculture. Et donc, à l'aquaponie, à d'autres manières, en fait, de mettre en relation des espèces vivantes, agronomiques. Et donc, d'avoir, comme ça, peut-être un impact positif sur une culture locale, une manière de faire qui peut apporter peut-être même plus de ressources, pas seulement alors dans les villes, parce que c'est surtout ce qu'on connaît ici, mais également en fait chez des maraîchers ou chez des agriculteurs professionnels.
Donc s'il y a en ce moment des auditeurs en Afrique qui vous entendent et qui aimeraient vous contacter, ça vous intéresse?
Absolument, et on peut les mettre en contact avec des personnes qui sont déjà en Afrique, qui travaillent sur ces sujets-là. Oui.
Alors Navi Radjoul, le continent africain est en pleine croissance économique, en pleine croissance démographique aussi, donc c'est vraiment un terreau formidable pour l'état d'esprit de Jougad.
Oui, absolument, et d'ailleurs la preuve, c'est que vous voyez maintenant les multinationales qui commencent à ouvrir des laboratoires comme IBM à Nairobi, au Kenya. Il paraît qu'il y a une longue liste d'attente parmi les ingénieurs d'IBM de Japon et de l'Europe pour aller travailler justement en Afrique. Non pas parce que les technologies qu'ils développent là-bas sont plus intéressantes, c'est que les cas d'usage, c'est-à-dire les use cases, les applications possibles, les besoins qui vont répondre là-bas sont beaucoup plus intéressants. Et donc, quelque part, je crois qu'effectivement, tous les exemples qu'on a entendus sur cette émission, ce qui est fascinant, c'est qu'en fait, ce sont des solutions toutes simples, mais qui répondent à des besoins vitaux dans le domaine de l'énergie, l'éducation, santé. Et ça, je crois qu'effectivement, l'Afrique va être, en fait, à mon avis, le laboratoire mondial d'innovation au Jougad.
Et l'Occident aussi est en train de s'y mettre. Les grandes entreprises et même les gouvernements s'y intéressent. On en parle juste après une petite pause musicale sud-africaine.
Des questions, des témoignages, des idées? Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
C'est pas du vent sur RFI. Nous parlons de l'état d'esprit de Jougad, toutes ces innovations frugales qui émergent partout sur la planète. Alors, ce sont des opportunités économiques pour permettre à leurs inventeurs de sortir de la pauvreté dans les pays en développement ou émergents. Mais dans les pays occidentaux, le Jougad souffle aussi, Navi Radjoul, parce que finalement, dans les pays occidentaux, on est de plus en plus aussi face à l'adversité.
Tout à fait. Vous voyez, par exemple, le fait qu'il y a la crise économique qui se prolonge. On voit les niveaux de chômage. Et puis la prise de conscience. confiance.
Pauvreté aussi.
Pauvreté, absolument. Par exemple, les États-Unis, on a vu qu'entre 2006 et 2010, la classe moyenne a perdu 40% de son pouvoir d'achat. Il y a 70 millions d'Américains aujourd'hui qui sont sous-bancarisés. C'est presque le quart de la population américaine. J'habite en Californie, où il y a un grand problème maintenant de raréfaction d'eau. Donc, on s'excite effectivement qu'on a de gaz de schiste aux États-Unis. Mais c'est pas ça le vrai problème dans 5 ans, c'est qu'on n'a pas d'eau. Et pour un État comme Californie, qui est le cinquième producteur de denrées alimentaires, c'est un gros problème. Il faut apprendre à faire mieux avec moi. Donc, ce sens de débrouillardise, système D quelque part, qu'on pensait était un peu péjoratif, hein, pas vraiment intéressant pour le Nord, ben finalement devient en fait la façon de se sortir de la crise avec peu de moyens.
Alors donc, les gouvernements, hein, je le disais, s'y intéressent. Par exemple, vous avez été reçu par une conseillère de David Cameron, le Premier ministre britannique.
Absolument.
Ça, c'est quand même surprenant.
Ben, disons qu'ils n'ont pas de choix, parce qu'en fait, c'est assez intéressant, parce que le gouvernement britannique, voit que finalement, le coffre public commence à s'alléger, si je peux utiliser un terme diplomatique.
Oui, on voit ça en France aussi, on a les chiffres de la dette récemment.
En France, je crois qu'on le voit, mais on n'a pas encore pris conscience, je crois, malheureusement. Mais donc, de ce fait, il y a un besoin grandissant, en Grande-Bretagne, justement, pour assurer la même qualité de service dans le domaine de santé, que c'est très connu quand même, ils sont très bons là-bas. La question maintenant, c'est comment faire mieux avec moi. Ils ont même publié un rapport en Angleterre qu'en tant qu'Indien, qui vient d'ancienne colonie indienne, j'aurais jamais vu de ma vie, je lirai un rapport publié par le gouvernement britannique qui s'appelle Notre avenir frugal, les leçons à apprendre de l'Inde. Donc c'est vraiment le monde à l'envers.
Retournement de l'histoire, oui, c'est intéressant. Voilà. Et les multinationales aussi s'intéressent à cet état d'esprit. Alors dans votre livre, L'innovation de Jugad, redevenons ingénieux, là, vous citez plein de grandes entreprises, ça passe par Renault, Procter & Gamble et plein d'autres qui commencent à regarder ça avec beaucoup d'intérêt en se disant, tiens, peut-être qu'on se trompe depuis des années en fait.
Ben, pour deux raisons, les multinationales sont intéressées. Tout d'abord parce que la croissance va quand même venir des marchés émergents. Les trois grands pays au monde en termes consommateurs dans 10 ans, 20, enfin, à peine 15 ans, ce sera l'Inde, la Chine et le continent africain. Ils comprennent finalement qu'il faut utiliser une approche d'innovation qui est différente de celle qu'ils ont adoptée dans le Nord pour justement concevoir des solutions beaucoup plus abordables, plus accessibles aux populations là-bas. Effectivement, il y a Renault effectivement qui est en train de développer leur prochaine voiture en sud de l'Inde, justement en s'appuyant sur l'ingénuité frugal des ingénieurs là-bas, dont, entre parenthèses, il faut citer l'âge moyen est de 29 ans. Donc, c'est aussi une population jeune. Exactement. Et deuxièmement, je crois que plus important, les multinationales comprennent que si elles ne commencent pas à adopter Jugad pour innover des solutions aussi en Occident, ils vont laisser en fait la place à des start-up ou des concurrents justement des pays émergents.
Donc, type Thomas Landrin aussi en France, qui avec son laboratoire arrive à récupérer des appels d'offres de la NASA quand même.
Et c'est vrai. C'est une autre histoire.
Mais c'est une histoire qu'on a envie de connaître parce que c'est surprenant. Dans un squat en banlieue de Paris, vous répondez à un appel d'offres de la NASA et vous gagnez.
Oui, absolument. La NASA avait collaboré avec une fondation américaine qui s'appelle Space Gambit qui va encourager justement l'innovation bottom-up, qui vient en dehors des institutions. Et nous, on a répondu et on a été sélectionnés. On a été le seul laboratoire européen à être sélectionné. Tous les autres étaient aux États-Unis. Et on a eu comme ça, c'est pas forcément rien, mais on a eu 10 000 dollars pour pouvoir fabriquer un bioréacteur. Donc un bioréacteur, c'est une machine qui sert à contrôler en fait la croissance de micro-organismes pour faire de la bioproduction. Alors c'est beaucoup de termes compliqués, mais ce qu'on peut retenir de ça, c'est que ça nous permet en fait d'utiliser une propriété extraordinaire du vivant, c'est de transformer la matière. On lui donne du sucre par exemple, et ça nous donne des pigments dans le cadre de l'encre, mais ça peut également nous donner de la cellulose, ça peut nous donner en fait plein d'autres choses, et ça peut également traiter les déchets. Voilà. Donc ici, il s'agissait en fait de donner un espoir pour les futurs vaisseaux spatiaux de pouvoir retraiter facilement leurs déchets, et il fallait commencer déjà par se réapproprier la technologie. C'est pour ça qu'on leur a proposé un bioréacteur low cost, 100 fois moins cher.
Alors ça a peut-être aidé aussi justement. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de détourner l'état d'esprit de Jugad de Navirajou d'au moins trois principes qui sont parmi les six principes, hein, si c'est justement récupéré par les gouvernements et les multinationales cet état d'esprit, puisque dans les principes, il y a viser la simplicité, intégrer les marges et les exclus et suivre son cœur. Bon, on ne peut pas dire que ce sont les principes qui gouvernent les multinationales habituellement.
Ben, nous allons prendre de choix parce que, pour être très, très direct, 70% des jeunes en Occident veulent aller travailler pour des entreprises qui sont à la fois responsables socialement et sur le plan environnemental. Donc il est clair qu'effectivement les multinationales le font non seulement parce que justement pour gagner des consommateurs dans les pays émergents, mais aussi pour attirer le talent. Donc moi je crois que finalement Jugaz représente justement l'état d'esprit de la nouvelle génération montante dans le monde en tant que futur employé et futur consommateur. Donc quelque part les multinationales n'ont pas de choix.
Elles n'ont pas de choix, mais on sait bien que l'objectif d'une multinationale, c'est de faire de l'argent. Cela dit, un innovateur aussi, hein, c'est pas une honte de faire de l'argent. Mais cette idée de réseau, on partage, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, on en a parlé hier, une fois de plus avec Jérémy Rifkin, mais peut-être que les réseaux sociaux sont un extraordinaire outil aussi pour partager ce que l'on invente, voir comment on fait en Inde, comment on fait au Canada, comment on fait en Amérique du Sud, et du coup, devenir plus fort à plusieurs. Mais ça fait un petit peu... Ça donne un petit peu la naissance de contre-pouvoir. Ça aboutit à la naissance de contre-pouvoir.
C'est vrai. Et en même temps, il ne faut pas non plus oublier que les réseaux sociaux et les réseaux d'innovation animés par justement des développeurs indépendants, ce qu'on appelle des hackers des fois, souvent les gens sont préoccupés par le fait qu'effectivement ils peuvent avoir un détournement par les multinationales. Et il y a un commentaire qui a été fait par justement, il y a un entrepreneur en San Francisco qui est en train de lancer justement des satellites qui vont couvrir trois quarts de la planètes qui ne sont pas encore couvertes par les satellites, ça s'appelle NanoSatisfy. Il le dit très bien, il dit finalement, un multinational peut prendre une de nos technologies et s'approprier, mais le temps qu'ils le mettent en place sur le plan commercial, on sera des années-lumière devant eux. Et c'est ça le pouvoir des réseaux ouverts, c'est qu'ils peuvent innover plus vite et plus agile et moins coûteux que les multinationales.
Donc, à partir de quand est-ce que vous pensez qu'on va pouvoir rentrer dans un nouveau système qui sera donc frugal, donc plus économe en ressources, donc ça c'est bon pour l'environnement, et aussi c'est bon pour l'économie, puisque finalement ça embauche plus de gens avec une répartition des bénéfices vraiment de façon locale. À partir de quand est-ce qu'on peut envisager un basculement, ou est-ce que c'est beaucoup trop tôt et utopique comme question?
Non, pas du tout. D'ailleurs, je pense qu'en Europe de l'Ouest, je suis de Californie, je passe beaucoup de temps maintenant en Europe, parce que je pense que l'Europe de l'Ouest et déjà cette année, je dirais plus ou moins, est en train de basculer dans ce modèle-là. Les États-Unis, ça va prendre un peu plus de temps.
Enfin, vous dites ça au moment, la semaine où on examine la transition énergétique en France, et on voit que les grands énergéticiens sont bien accrochés sur leur siège. Hein,
Je pense qu'en Europe de l'Ouest, c'est un peu schizophrénique. Effectivement, d'un côté, je dirais les grands décideurs politiques et même quelques décideurs dans le monde économique s'accrochent quand même à un modèle traditionnel, hein, ces grands projets très top-down, très coûteux, et en même temps, il y a aussi des gens comme Thomas Landrin qui sont en train en fait de galvaniser un nouveau mouvement beaucoup plus bottom-up. Donc il va y avoir une espèce de tension pendant un moment où les gens au pouvoir auront du mal à lâcher prise, hein, et accepter ce nouveau paradigme d'innovation qui est beaucoup plus bottom-up. Mais éventuellement, je crois que c'est les consommateurs qui vont voter, comme j'appelle, avec l'argent. Et c'est ça qui va accélérer la bascule.
Alors, au cas où vous ne seriez toujours pas convaincu que l'état d'esprit de Jugaz est en pleine effervescence, Corentin de Châtel-Perron nous a rejoint. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes ingénieur et vous avez fondé l'initiative Nomades des Mers. Alors, c'est le résultat d'une grande aventure. On n'a pas le temps, on arrive à la fin de l'émission bientôt, d'expliquer tout votre parcours. Mais en gros, Nomades des Mers, ça consiste en quoi ?
Et ben en fait, c'est un peu dans le même esprit que justement, Navier Adjou, c'est un très bon ambassadeur pour nous, et puis ce que fait Thomas avec la paillasse aussi. On monte un laboratoire de recherche collaborative sur les low-tech. Alors, ce qu'on appelle les low-tech, c'est à la différence de high-tech, c'est tous les systèmes qui répondent à un besoin de base, donc l'accès à l'eau, à l'énergie, à l'alimentation, aux matériaux de construction, avec les moyens du bord. Donc comment répondre aux besoins de base avec les moyens du bord? Et on s'est dit que il y avait beaucoup de recherches sur les high-tech, mais très peu sur les low-tech. On a essayé de comprendre pourquoi, et en fait la réponse est simple, c'est que dans la recherche pour les high-tech, il y a de l'argent. Et au final, la plupart des chercheurs dans le monde font de la recherche pour même pas 10% des gens de la planète. Et à l'inverse, sur les low-tech, il y a très peu d'argent parce que aussi il n'y a pas les moyens financiers de les faire. Et on s'est dit que depuis quelques années, grâce à tout ce qui est recherche collaborative, exactement comme ce que fait la paillasse, il y avait moyen de faire de la recherche pas chère. De, en fait, rassembler, de fédérer des chercheurs ou des professionnels ou des bricoleurs du dimanche et de les mettre à travailler ensemble sur des challenges low-tech. Donc on a par exemple dans les low-tech le frigidaire qui n'utilise pas d'électricité dont parlait Navi tout à l'heure, où il y a des dessalinisateurs solaires, il y a des moyens de recycler des bouteilles plastiques pour faire d'autres objets, il y a l'histoire des tôles en recyclant du plastique dont on parlait
Anne Barbery,
merci, etc. Et donc, ce qu'on lance, c'est une plateforme sur Internet sur laquelle on liste 50 challenges de recherche. Donc, qui saura, par exemple, produire de l'énergie avec des algues, qui saura faire de l'encre avec des algues. Là, je m'adresse à Thomas, ou etc. Et on s'adresse donc à n'importe quel MacGyver du monde entier, à des chercheurs high-tech comme des bricoleurs du dimanche, pour qu'ils répondent à ces challenges en nous envoyant des vidéos où ils présentent leur système. Et nous, avec un jury de spécialistes, on sélectionne les systèmes les plus intéressants et on va les inviter pour une grande expédition maritime autour du monde sur un grand bateau où on va tester toutes ces low-tech. Et donc le bateau, au fur et à mesure qu'on va inviter tous ces inventeurs, va devenir de plus en plus autonome en eau, en énergie, en alimentation. Et on va s'arrêter dans plein d'endroits dans le monde pour diffuser au maximum ses connaissances.
Alors, où est-ce que l'on peut participer si on veut répondre à votre appel à projet?
Eh ben, en fait, on vient de lancer la plateforme, là, il y a quelques jours, sur nomadesdesmers.org. Et donc, on invite tout le monde, tous les MacGyvers du monde, à nous rejoindre pour commencer ces recherches collaboratives.
Et les MacGyvers de tous les continents, puisque par principe, votre bateau va aller partout.
Ben voilà, et c'est aussi ce que prône Navi, c'est que il n'y a pas assez d'échanges de connaissances. C'est en général, ça va de l'Occident. Les innovations sont créées, ben, là où il y a de l'argent en Occident, vers les pays du Sud. Et que non, en fait, il y a des innovations qui naissent de partout et il faut partager tout ça.
Et alors, quand va partir votre bateau?
L'été prochain, en 2015.
Et le périple est déjà imaginé?
Ben oui, c'est un tour du monde pour lequel on va passer par l'Afrique de l'Ouest d'abord, le Sud, enfin ensuite Madagascar, l'Inde et l'Indonésie, et voilà, dans ce sens-là.
Eh ben dites donc, ça promet. En tout cas, c'est très excitant. Donc on vous suivra, vous aussi. On va essayer de relayer les appels à projets dont vous aurez besoin. Merci en tout cas à tous les trois d'être passés dans cette émission. Merci à François Porcheron pour la réalisation et la mise en onde. N'hésitez pas à réagir ou à témoigner sur ce qui se passe près de chez vous par mail, c'estpasduvent@rfi.fr, ou sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, hashtag c'estpasduvent. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve samedi prochain, même planète, même heure.